Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci de choisir Studio Tamani pour vous informer. Il est 8h et nous sommes vendredi 13 décembre 2024 au sommaire de cette édition. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye souhaite le maintien de l'alliance des États du Sahel au sein de la CEDEAO pour, dit-il, éviter une désintégration de l'organisation. Faciliter l'accès des fêtières de femmes et des corporations paysannes aux terres cultivables, c'est le but d'un document de guide de l'ONG Merci Corps. Il a été validé hier jeudi à Bamako. Brouillard dans la capitale malienne depuis quelques jours. Selon des spécialistes, cette situation s'explique par le changement de la direction du vent et la multiplication des engins dans la circulation. Voilà pour les titres. Les détails, c'est tout de suite avec Lala Diarra Touré, Noum Djiré pour la mise en onde. Bonjour à tous. Rien n'empêche aujourd'hui de maintenir l'alliance des États du Sahel au sein de la CEDEAO. Cette déclaration est du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Il dit être convaincu du maintien de cette organisation puisqu'elle est déjà là et qu'elle répond à une réalité sécuritaire à laquelle ces pays font particulièrement face. Il a fait ses annonces le dimanche dernier lors du forum de Doha au Qatar sur la sécurité et la gouvernance mondiale. Quel peut être l'impact de ce maintien sur les deux organisations? Quel est le regard des experts politiques et économiques sur la question? Lali Tangara nous en dit plus.
Dr Balandjakite, politologue et chercheur, indique qu'il y a aujourd'hui cette inquiétude du côté de la CEDEAO de voir un certain nombre de ses États membres quitter l'organisation. Selon lui, ce retrait peut affaiblir le fonctionnement de la CEDEAO.
Cette Afrique de l'Ouest qui est confrontée à beaucoup de crises, à la fois sécuritaires, humanitaires et économiques, pour ne pas finalement tomber dans une sorte de désintégration de ces États. C'est dans cette dynamique que on doit placer les propos récents du président Diomaye Faye.
Toutefois, en termes économiques, il y a forcément de l'avantage dans la coopération entre les pays de l'AES et de la CEDEAO. C'est ce que soutient le professeur Sekou Diakité, enseignant à la faculté des sciences économiques et gestion de Bamako.
Les pays sont obligés de coopérer. Ça ne sera plus dans l'espace économique de la CEDEAO. Ça sera maintenant entre les pays de l'AES et individuellement les pays limitrophes de la CEDEAO ou d'autres pays. Les pays sont obligés maintenant de prendre en compte la souveraineté de l'AES et les aspects avantages que peuvent tirer les uns des autres.
Notons que le sommet de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est prévu le 15 décembre prochain sur le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger.
Fidèles auditeurs, vous pouvez donner votre avis sur ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Autre actualité, le Premier ministre a rencontré hier les hommes de médias à la Maison de la Presse. Une occasion mise à profit pour mettre les autorités au parfum des défis actuels de la presse malienne, mais aussi et surtout réclamer l'aide à la presse et la révision des textes. Des doléances bien prises en compte par le général de division Abdoulaye Maïga. Moumine Sendebou a suivi la rencontre pour Studio Tamani.
Il est 10h passées d'une dizaine de minutes. Le Premier ministre marque son entrée dans la salle. Le général de division Abdoulaye Maïga était habillé d'un boubou bleu ciel et d'un bonnet blanc sale. À l'entame de la cérémonie, le président de la Maison de la Presse, Bandjougou Danté, a souhaité la bienvenue à l'hôte. Son discours a tourné autour de trois axes. Il s'agit de la liberté de la presse, l'aide à la presse et la situation de Djoliba TV.
Monsieur le Premier ministre, nous attendons de vous les conditions de la création d'un espace médiatique assaini, favorable à la liberté d'expression et une aide spéciale conséquente pour la presse malienne. En ce qui concerne l'affaire Djoliba, en toute responsabilité, je présente au nom de la Maison de la Presse du Mali nos excuses aux autorités burkinabées.
Un geste bien apprécié par le chef du gouvernement. Le patron de la primature, général de division Abdoulaye Maïga, invite toutefois les hommes de médias à l'autorégulation et à plus de professionnalisme.
J'ai entendu beaucoup d'indicateurs que vous avez relevés. Quand les enlèvements et les assassinats concernent également les élus des collectivités territoriales, mais ça concerne surtout et avant tout forces de défense et de sécurité. Concernant la fermeture des médias, on est en démocratie. Tous ces cas de fermeture sont opérés à partir du respect d'un certain nombre de textes législatifs et réglementaires. Mais les recours, bien entendu, existent toujours. Mais je souhaiterais quand même qu'on soit également équilibré lorsqu'on amène des indicateurs.
Cette cérémonie s'est clôturée par une série de questions-réponses. Comme à doléance, les professionnels du média ont mis l'accent sur la problématique des délestages, la sécurisation des stations de radio et de télévision dans les zones en proie à l'insécurité et l'assainissement du secteur.
Reportage signé à l'instant, Moumine Saint-Débou. Je vous l'annonçais dans les titres. Les guides d'accès des associations et des groupements de femmes et des jeunes aux terres agricoles aménagées a été validé hier à Bamako. Il vise à faciliter dans la pratique la concrétisation de la volonté politique manifestée à travers la loi foncière. Le développement de ces guides est une contribution aux efforts de plaidoyer des fêtières de femmes et des corporations paysannes quant à l'accès aux terres cultivables. C'est une initiative de l'ONG Merci Corps et ses partenaires. Salim Cissé est secrétaire permanent du Comité national du Conseil supérieur de l'agriculture chargé de la mise en œuvre de la loi d'orientation agricole. Il est au micro de notre reporter Mariam Koulibaly.
La loi sur le foncier agricole qui est à son article 13 parle de l'accès de la femme, des jeunes aux terres aménagées par l'État et les collectivités. Alors c'est dans le cadre de mettre en suspens notamment l'article 13 qui permet aux femmes et aux jeunes d'avoir accès à la terre. Quand on prend une disposition, les dispositions sont d'application de l'autre nécessité de l'élaboration du texte. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à élaborer ces guides qui peuvent servir de bréviaire pour les différents services techniques dans le cadre de leur orientation par rapport à l'octroi des terres à ces groupes de femmes et jeunes. Dans un premier temps, d'attirer l'attention sur le fondement juridique qui donne autorisation à ces groupes de femmes pour avoir accès à la terre. C'est d'amener par le mécanisme par lequel il faut pour attribuer les 15% de terres à ces groupes de jeunes et de femmes également.
Je vous l'annonçais également au sommaire à Bamako sous brouillard ces derniers temps. Nous avons approché des spécialistes qui nous donnent ici des explications.
Depuis quelques jours, nous avons constaté de la poussière et brouillard à Bamako. Cela peut avoir comme conséquence des rhumes persistants, des maladies respiratoires, surtout ceux et celles qui souffrent de l'asthme. Cette période peut être sérieusement secouée. Ça peut réduire la visibilité, augmenter la récurrence des accidents de la circulation, mais également il y a la question de la fraîcheur, surtout chez les enfants et les vieilles personnes dont il faut vraiment veiller à ce qu'ils portent des habits lourds, peut mettre du beurre de qualité dans leur nez au cas où les médecins n'y voient pas d'inconvénient.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
La corruption est une réalité dans plusieurs secteurs privés aussi bien que publics. Des actions de sensibilisation sont menées par les associations et les autorités pour mettre fin à la pratique. Pour autant, la forme la plus répandue, qui est la petite corruption, passe souvent inaperçue. Qu'est-ce que la petite corruption? Comment est-elle vue par les populations que prévoit la loi? Les éléments de réponse dans ce dossier de la semaine réalisé par Adamo Amadou Haïdara.
La petite corruption peut se présenter sous deux formes. On en sait plus avec Ibrahim Ben Mamata, juriste.
Petite corruption active, ça c'est dans le cas où c'est l'employeur ou bien le fonctionnaire qui sollicite de la personne qui vient dans son service quelque chose pour faire le travail pour lequel il est payé. On parle de corruption passive dans le cas où l'usager du service public ou privé propose quelque chose à l'employé ou au fonctionnaire pour un service.
Au Mali, on le dit couramment, avoir des bras longs est un atout pour parler ainsi des relations. Et la population bien consciente de son acte s'y prête quand même.
Effectivement, dans les services, on se rend entre nous amis, parents et frères.
Une fois, on m'a arrêté pour une vignette, ça m'a choqué, j'ai payé 1000 francs. Mais après, j'ai réfléchi, je me dis que vraiment, c'est pas normal.
J'ai même une fois payé 5000 francs pour avoir ma carte d'identité. C'est de la corruption.
Pourtant, cette petite corruption est opprimée par le code pénal malien à travers les articles 120 et 123, comme le souligne ici Ibrahim Ben Mamata.
Et la peine de la corruption varie selon les registres. S'agissant des fonctionnaires, elle peut être de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Du secteur privé, c'est de 2 à 5 ans.
Sur le plan économique, cette pratique n'est pas sans conséquences. Selon l'économiste Abdoulkarim Diamoutene, la petite corruption, de par son élargissement, a plus d'impact négatif.
Le niveau de pauvreté au Mali, qui théoriquement est entre 40 et 50% de la population qui est censée être pauvre, et donc cette corruption-là, elle ne fait que aggraver la pauvreté de la population. Les gens ont tendance d'ignorer et puis surtout quand on voit un peu les rapports, et c'est cette petite corruption-là qui concerne un peu la majorité de la population malienne.
L'association de lutte contre la corruption et la délinquance financière condamne la corruption sur toutes ses formes. Son président Moussa Touré appelle à un éveil de conscience.
Ce sont des pratiques que nous dénonçons, c'est de demander aux citoyens de vérifier cette corruption. l'action ou de la dénoncer. Tant qu'on ne va pas la dénoncer, il va continuer à perdurer.
Plusieurs mesures ont été prises pour mettre fin à cette pratique qui continue malgré tout.
Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Vous pouvez réécouter gratuitement ce journal et les magazines qui va suivre en appelant les services Kounafouni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Gardez vos positions. Après moi, Juliette Koulibaly sera là pour le journal La Langue Nationale. Excellente journée de vendredi à tous. À ce jour, le Mali n'enregistre qu'un cas de poliomyélite selon les services de santé. La dernière campagne de vaccination des enfants des 0 à 59 mois contre la poliomyélite a pris fin le 27 novembre 2024. Selon le Centre national d'immunisation, structure chargée des programmes de vaccination au Mali, plus de 7 225 000 enfants sur toute l'étendue du territoire national étaient concernés. Initiée par le ministère de la Santé et du Développement social, l'opération fait face à des résistances de la part de certains parents. Dans le magazine Tous les enfants du jour, nous faisons le bilan de la campagne de vaccination contre la poliomyélite au Mali. C'est une réalisation de Ali Sissé.
Cette campagne dirigée contre la poliomyélite au Mali a touché plusieurs localités du pays. Comme en témoignent ses parents interrogés à Sikasso, Bandiangara, Bankas, Bafoulabé, Mopti et Ségou.
Mes trois enfants ont été bien sûr vaccinés contre la poliomyélite.
Mes enfants n'ont pas été vaccinés. J'ai eu peur.
Je suis au courant de la campagne de vaccination, mais je n'ai pas d'enfants de la tranche d'âge concernée à la maison.
Le cas de poliomyélite, c'est rare dans la région de Mopti.
Tous mes enfants ont été vaccinés.
Nous le faisons et nous y croyons.
Les enfants ont reçu leur dose.
J'avais vraiment très peur parce que j'ai appris que le vaccin rend les enfants stériles.
Le scepticisme vaccinal chez certains parents est bien connu de l'Organisation mondiale de la santé. C'est pourquoi Dr Etienne Dambélé, expert en éradication de la polio au sein de la Division mondiale de l'immunisation, table sur la sensibilisation.
Les parents sont sceptiques à la vaccination. Nous voudrons trouver un moyen d'expliquer à ces parents que la vaccination préserve nos enfants. Il y a de ces zones difficiles à atteindre. Mais nous sommes en train de mettre sur place des agents locaux pour aider les enfants à être vaccinés. Certains agents de santé pensent que la poliomyélite, c'est un cas qui est déjà dépassé. Il y a des cas qui existent dans les pays voisins et aussi le Mali n'est pas épargné. Nous avons cette assurance qu'ensemble, nous pourrons éradiquer la polio.
Malgré des difficultés à atteindre certaines zones pour des raisons de sécurité, le Centre national d'immunisation au Mali assure que la campagne a été un succès. Dr Ibrahim Adjara, directeur du Centre national d'immunisation.
Dans les situations où les zones sont en sécurité comme la vaccination de routine ne marche pas tellement. Eu égard, bien entendu, à cette insécurité, au braquage, aux enlèvements, les enfants ne sont pas tellement protégés. Mais il était attendu de vacciner 7 224 224 enfants de 0 à 59 mois. Et vous voyez déjà, nous avons vacciné 7 889 299 enfants, soit une couverture de 109,21.
Docteur Ibrahim Adjara est aussi responsable du programme élargi de vaccination au niveau national. Il affirme que cette campagne de prévention qui est menée sur l'ensemble du territoire national porte bien ses fruits. En 4 ans, le Mali est passé de 56 cas de poliomyélite en un seul cas, dit-il.
Ce n'est pas seulement les enfants maliens qui sont concernés. Depuis 2020 jusqu'à maintenant, vous voyez, de 56 cas au départ, on est revenu à un seul cas en début d'année 2024 et jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore recensé des cas. La maladie n'a pas de frontières, donc on est obligé souvent de prendre les enfants venant d'ailleurs. Les gens vont s'étonner pourquoi on a des couvertures de 109 et quelques pourcents. C'est parce que, vraiment, il est important de vacciner tous les enfants, je vais dire, de cette tranche d'âge-là.
Les centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC, ont le statut d'agence du département de la santé et des services sociaux des États-Unis. Cette agence est engagée dans l'éradication de la maladie dans les régions sud et centre de l'Afrique. Elle est focalisée sur le renforcement des systèmes de santé dans les pays touchés par la poliomyélite. Son directeur pays, Dr Sirin Jai, se dit satisfait des résultats, malgré le taux de couverture.
Il y a aussi les systèmes d'information de santé
vaccinés, qu'on puisse communiquer à temps aux décideurs pour qu'on puisse prendre des décisions. Je suis content de ce qui se fait maintenant, mais il y a les défis. En ce qui concerne la polio, on fait beaucoup d'efforts de sensibilisation, mais le taux de vaccination reste toujours faible. Je dirais aussi que je suis très optimiste parce que moi, je trouve que le pays a des ressources humaines vraiment extraordinaires avec volonté de travailler.
Enfin, les autorités sanitaires au Mali exhortent les parents à suivre correctement la vaccination de routine des enfants, car selon elles, c'est le moyen de garantir à l'enfant une immunité.